Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulou, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une spéciale BD avec Leur H de Paolo Castaldi, Cosimo Damiano D'Amato et Eri De Luca. Congo, le voyage de Joseph Conrad au cœur des ténèbres de Christian Périssin et Tom Tirabosco, ainsi que le Fatih, le premier roi d'Hollywood de Julien Frey et Nadar, trois titres parus chez Futuropolis. Nous aborderons également l'Odyssée de Mongou de Didier Kassai, paru chez l'Armaton BD. Et puis nous rencontrerons quelques BDistes dans cette émission, à savoir Jean-Michel Ferragatti, donc le scénariste du comics à la française Centaur Chronicles, dont le volume 4, intitulé Le Dénouement, vient de paraître chez FG Prod. Alors Centaur Chronicles, les auteurs sont donc Jean-Michel Ferragatti au scénario, Marty, Eric Van Elsland et Riedman au dessin, qui se partagent un peu les tâches, mais on vous expliquera ça durant l'entretien. Et puis nous irons à la rencontre de Namlok et Monsieur K, que nous retrouverons donc en entretien, et dont la BD L'Alter Ego vient de paraître chez Artus Film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Anne-Gaëlle Fontaine, Manon Dumas-Maurès, Kevin Boissezon et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer bande dessinée, je suis accompagné de mon inénarrable acolyte. Et oui, le fameux loup-garou Picard, alias Thomas Roland. Alors, accessoirement, co-rédacteur en chef de Prime Cut, mais également, et surtout, chaque nuit de pleine lune, un lycanthrope prêt à en découdre qui enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut, chers collègues de Prime Cut, GG. Et bien évidemment, salut à toutes.
Nous allons débuter cette émission par une salve d'ouvrages parus chez nos amis de Futuropolis. Et on va tout de suite commencer, Thomas, par Congo, le voyage de Joseph Conrad au cœur des ténèbres de Christian Périssin et Tom Tirabosco.
Oui, les éditions Futuropolis se lancent dans la publication de certains titres de son catalogue dans des formats poches. Et parmi les premiers à bénéficier de cette offre, on peut trouver donc Congo, une BD écrite par Christian Périssin et mise en image par Tom Tirabosco. Alors Congo, comme son titre l'indique, le voyage de Joseph Conrad au Congo, raconte donc l'équipée de Joseph Conrad au Congo belge, alors qu'il était encore marin. Ayant signé un contrat de 3 ans pour commander un bateau qui transporte de l'ivoire sur l'immense fleuve qui traverse ce pays qui ne l'est pas moins, il est loin de se douter qu'il va se retrouver dans un pays hostile, à la chaleur insupportable, et où des aventuriers d'opérette viennent y tenter leur chance. Congo est une vraie BD d'aventure, mais pas une BD d'aventure comme qui est plus proche des films d'aventure de John Huston ou de William Friedkin que des aventuriers de Steven Spielberg. à travers le regard de son personnage, qui à l'époque s'appelle Konrad Korzeniowski, Christian Périssin dépeint des personnages lâches et cupides qui n'ont aucune considération pour la vie humaine quand celle-ci ne correspond pas à leurs critères. Dans un style réaliste, au crayon en noir et blanc, qui se partage aussi entre épure et parfois quelques petites touches impressionnistes, Congo rend compte du manque de respect et de tolérance des colons, le peu de cas qu'ils accordent aux us et coutumes des autochtones. Dans ce voyage au long cours, on ressent la moiteur de la forêt équatoriale, l'humidité de la pluie, le feu de la fièvre dans des passages oniriques, mais surtout la noirceur du cœur humain. Le dessin sombre s'accorde parfaitement avec le fond de l'histoire, mélange le réel au cauchemar. La BD de Christian Périssin et Tom Tirabosco évoque bien l'époque. Même si de rares occidentaux n'approuvaient pas le comportement de leur père, ils n'échappaient pas non plus au poids des préjugés, tel Konrad qui ne voit dans le Congo qu'une contrée sauvage et hostile, peuplée de gens étranges, tout en se désolidarisant des méfaits de ses compagnons. Oui, Congo relate le voyage de Konrad, véritable descente aux enfers qui, par la suite, lui a inspiré Au cœur des ténèbres.
Je vais rester chez Futuropolis continuer de vous causer de BD parues chez Futuropolis et de BD qui parlent de personnages réels. Et en l'occurrence, là, je vais vous parler de Fatih. Fatih, le premier roi d'Hollywood, BD de Nadar et Julien Frey. Alors, l'histoire est simple. Beaucoup de monde, il est assez connu, Fatih, puisque c'était, il a été pris au centre d'un scandale qui a ruiné sa carrière, alors que c'était au départ l'acteur le mieux payé d'Hollywood, une des premières stars d'Hollywood. Alors, la BD, elle démarre dans les années 60, dans les studios de la MGM, on est à Beverly Hills, et Buster Keaton tourne Il était une fois, l'épisode 13 de la saison 3 de La quatrième dimension de Monsieur Rod Serling. Et puis, il y a un assistant qui vient le chercher dans sa loge pour faire des essais lumière, sachant que Buster Keaton déteste faire les essais lumière et que là la doublure n'est pas là pour faire les essais lumière, donc l'assistant il est un peu inquiet comme ça, il se demande comment il va être reçu, et là il tombe sur Buster Keaton qui lui parle de Roscoe Fatih Arbuckle, donc de son surnom Fatih, et ce jeune assistant lui dit mais qui est Fatih, et alors il lui raconte l'histoire vraie, c'est-à-dire de sa rencontre avec Fatih, Buster Keaton, du jeu créatif, des fêtes et du procès qui coûta très cher à Fatih. Alors, ils se rencontrent, Buster et Fatih, en 1917. Fatih est déjà une immense star, mieux payé que Charlie Chaplin. Keaton, lui, vient du théâtre, il n'a encore jamais fait de cinéma. Mais Fatih l'embauche et l'encourage à travailler. Et en particulier, ils ont des gabarits très différents parce que Fatih est très imposant, plutôt... En fait, ils forment un couple à Laurel et Hardy avant l'heure, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est très bien reproduit dans la BD. L'idée que le gros cache le petit à un moment pour se dissimuler en adoptant la même démarche, c'est très très drôle. Gag visuel très bien rendu dans la BD. Et ensemble, ils vont tourner une quinzaine de films, des courts métrages. Mais à l'époque, les films étaient très courts. Ils vont beaucoup s'amuser. Mais le problème, c'est que le fameux Fatih va être accusé du meurtre d'une jeune starlette, d'un meurtre assez sordide, puisqu'on peut toujours lire aujourd'hui que l'affaire n'était pas claire, que en gros il y avait une sorte d'orgie de fête énorme et que cette jeune femme aurait été morte de l'introduction d'objets là où il ne fallait pas. Sauf qu'en vérité, l'affaire est beaucoup plus complexe que ça. En vérité, ce qu'on apprend dans la BD, c'est que Fatih Arbuckle a été lavé de tout soupçon et que c'est l'abus d'alcool qui a provoqué une sorte de rupture des organes. Et en fait, cette jeune femme, elle est morte de ses excès et c'est mal tombé puisque c'est tombé durant cette soirée et que comme elle était en souffrance. Elle était dans un lit, en fait, elle souffrait dans son lit. Et disons que Fatih s'est fait surprendre au moment où il essayait de la soulager et tout ça, mais il n'y avait rien de particulier, en fait, entre eux. Alors, il a été innocenté, Fatih, sauf que sa carrière était finie. C'était en pleine prohibition. L'Amérique puritaine, elle voulait moraliser Hollywood. Après, il y aura le fameux code ICE, On en reparlera dans l'émission. ICE, c'est quand même extraordinaire le code ICE, parce que c'est quand même un mec que les studios sont allés chercher pour moraliser Hollywood, alors qu'en fait, on leur avait rien demandé, quoi. Donc on en est là quand même. Et donc évidemment, on voulait plus entendre parler de ce gros monsieur qui était accusé d'un meurtre sordide. Alors, cette BD, ben, elle est construite sur un rythme qui est parfois haletant, parfois lancinant. Il y a un jeu sur les couleurs pour traduire l'état d'esprit de son protagoniste. Et Frey et Nadar, Julien Frey et Nadar, reproduisent la formule gagnante de leur précédente BD hein, sur un autre cinéaste maudit et oublié, Edouard Luns. Sauf qu'à la différence de Luns, Fatih n'a pas été oublié, il a été effacé, il a été sali, il a été enterré 6 pieds sous terre. En fait, Frey et Nadar ben, repartent, réparent cette injustice à travers cette BD, puisqu'on y apprend, que le fameux scandale Virginia Rape, du nom de cette actrice, eh bien, ne s'est pas exactement passé comme il nous est régulièrement raconté. Et là, c'est une autre version qui nous est donnée. Et bah, rien ne nous est caché, attention, hein, y compris des dépendances mortifères de Fatih, de ses excès, voilà. Mais la thèse du sinistre pervers violeur qui continue d'être accolé à Fatih est ici sérieusement mise à mal par les faits, tout simplement. Hein, voilà. Et donc, du coup, c'est une BD sur l'histoire d'Hollywood et sur les changements d'Hollywood, la fin de l'Amérique du cinéma pré-code, la fin d'une certaine ère d'insouciance. Donc, évidemment, on vous conseille vivement cette BD très réussie de Julien Frey et Nadar au dessin. Toujours chez Futuropolis, alors là, on n'est pas sur une BD, comment dire, inspirée d'un personnage réel, mais par contre, inspirée d'un mouvement, d'un organe de presse, ça s'appelait la Lotta Continua, la lutte continue, en Italie, et dont a fait partie Eri De Luca, immense écrivain, hein, qui a eu le Femina, qui est un auteur très 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 connu, hein, et que l'État italien a même essayé encore durant les années 2000 d'embastiller parce qu'il s'opposait à la ligne Lyon-Turin, voilà, qui est militant toute sa vie, qui est toujours là, hein, qui est toujours vivant aujourd'hui. Là, il nous raconte l'histoire de Sara et Sebastiano qui vivent leur amour à l'ombre de l'entreprise de sidérurgie Italsider et qui luttent pour un avenir juste et équitable, pour que les ouvriers ne travaillent plus à la pièce, pour qu'ils ne soient plus exploités et que le lieu de travail soit un endroit où il y ait des droits et non où on trouve la mort. Donc ils font partie d'une des plus importantes formations de la gauche extra-parlementaire italienne, active de la fin des années 60 à la première moitié des années 70. Et c'est leur militantisme tumultueux qui se déroule dans les rues de Tarente et qui est accompagné jour après jour par les articles du quotidien, donc Lotta Continua, organe officiel du groupe politique du même nom. Et c'est ça que nous raconte cette BD, ce roman graphique. C'est leur protestation. Et jusqu'à ce que sonne leur hache. Ça, je vous laisse le découvrir. Alors, assez souvent, moi, je réfute l'appellation de roman graphique que je considère comme un euphémisme un peu petit bourgeois visant à qualifier la BD. Comme c'est un art forcément mineur, l'intelligentsia lui a attribué ce qualificatif de roman graphique. Eh bien, leur H me réconcilie en fait avec ce terme, car oui, leur H est bien un roman graphique. C'est une traduction en image de l'écriture foisonnante et poétique du grand Eri De Luca. Alors, écrivain et journaliste engagé très à gauche, l'auteur de Monte d'Idio, que les autorités italiennes ont encore essayé d'embastiller lors de sa participation à la lutte contre le tunnel ferroviaire Lyon-Turin, aberration environnementale, et particulièrement bien servi par le dessin de Paolo Castaldi. Ces dessins sont amples, beaux, le grain du fusain semble se jouer des contraintes de l'impression, et ils illustrent à merveille la prose d'un homme habité par la lutte, mais aussi par la non-violence. Voilà, alors une prose qui est aussi bien traduite, parce que je pense que là il s'est fait aider par Cosimo Damiano D'Amato au scénario. L'enchaînement des cases arrive même à rendre grâce à la musicalité de l'écriture de cet humaniste qui préfère faire confectionner des feux d'artifice à ses gauchistes plutôt que de la dynamite. Il nous parle d'un monde où les ouvriers rêvent de 32 heures, où ils soutiennent les travailleurs du monde entier, et il nous parle d'un monde H, on va dire H comme humanité. « vous écoutez Culture Prohibée spécial BD. Nous allons maintenant changer d'univers pour causer d'un comics à la française. Je veux bien sûr parler de Centaur Chronicles volume 4, le dénouement, de Jean-Michel Ferragati au scénario, Marty au dessin, Eric Van Elsland à la couleur et Riedman au dessin également, mais pour restaurer des épisodes, des vieux épisodes de l'éditeur Centaur Publication. On en parlera durant l'entretien. Ça s'est paru chez FG Prod. Et on a déjà parlé des trois précédents volumes dans l'émission, donc on va tout de suite écouter notre échange avec Jean-Michel Ferragati au sujet donc de ce quatrième volume qui s'appelle le Dénouement, qui est désormais disponible en librairie. Donc tout de suite, Jean-Michel Ferragati au micro de Culture Prohibée. Alors avant de rentrer dans le détail du volume 4, il intervient quand même 9 ans après le premier. Pensais-tu en te lançant dans ce projet que non seulement cela durerait aussi longtemps, mais aussi que ce serait à l'origine de tout un univers ou un multiverse, ça dépend comment on le dit, quoi, voilà, mais en gros que ça deviendrait aussi important?
Alors, sur la durée, non, je pensais que ça serait plus court, parce qu'en effet, si on regarde bien la première mouture du projet, ça fait 9 ans, en effet, donc non, je pensais que ça serait plus court. Sur l'univers, par contre, oui, dès le début, on avait prévu vraiment un univers élargi, c'était l'intérêt de l'univers original de Centaur Publication, même s'il n'y avait pas d'univers structuré, il y avait beaucoup de personnages très divers, beaucoup de personnages. Il y avait des personnages du passé, entre guillemets, les personnages du futur ne sont pas exceptionnels. Mais oui, on avait dès le début l'idée que ça ferait un univers complet et partagé. La nouvelle intéressante par rapport au projet, c'est qu'il y a pas mal de dessinateurs qui, au fur et à mesure des publications des volumes principaux, ont été intéressés par l'univers et proposent des projets annexes qu'on va publier au fur et à mesure, en plus, je dirais, de la série principale. Donc, un vrai univers partagé dans le sens où les auteurs commencent aussi à se l'approprier.
Oui, c'est quand même devenu donc un projet vraiment qui a pris beaucoup d'ampleur. D'ailleurs, je voulais te féliciter parce que je trouve que, et tout particulièrement pour ce quatrième album, alors on dit un peu ça à chaque fois, mais là, c'est vrai que je trouve que avec le climax de cet arc narratif, qui est visuellement une merveille, moi, je trouve que vraiment, il est incroyablement réussi. Est-ce que tu penses que vous avez tous ensemble franchi un cap? Parce que là, au niveau de la BD d'action, c'est vraiment très réussi. Alors, on reviendra un peu plus en détail après dessus, mais je trouve que l'album ressemble encore à un palier, quoi, dans cette histoire Centaur Chronicles.
Oui, je suis d'accord. J'avais prévu sur la durée du projet en tant que scénariste un vrai climax sur la fin. Et d'ailleurs, j'avais un peu peur que sur les premiers tomes, les gens trouvent ça pas assez dynamique, parce que on présentait des personnages que, en gros, quasiment personne connaissait. Et en même temps, je voulais pas une écriture trop compressée, comme sur certaines autres séries, où on a l'impression que ça va trop vite. Donc je voulais à la fois prendre mon temps, présenter les personnages, présenter les ressorts scénaristiques des personnages. Donc je me disais au début, j'espère que les gens vont pas trouver que c'est trop lent. Par contre, on avait dès le début prévu que le dernier épisode soit vraiment, d'une certaine manière, en fait, une seule scène d'épisode. Alors au début, mon ami Jean-Marc Lefissier, à qui je faisais régulièrement relire mes premiers volumes, me disait too much talking heads, trop de têtes qui parlent, c'est-à-dire de gens qui disent des choses, quoi. Et j'ai dit oui, mais tu vas voir, ça va venir. À la fin, on aura vraiment un truc. Donc sur le côté paroxysmique, oui. Après, sur le côté dessiné, je dirais dessin, il y a deux choses. C'est que Marty c'est beaucoup investi ces dernières années, à la fois sur le projet Centaur Chronicle, mais aussi sur le projet Oplitea, puisqu'il a fait 4 volumes pour Centaur Chronicle, et il est en train de finir le 4e volume pour Oplitea, plus des petites choses, le Garde Républicain, etc. Et que du coup, il s'est beaucoup amélioré. Il faut le dire, quand on pratique le dessin, on s'améliore. Donc il s'est beaucoup amélioré. Et en plus, sur le quatrième volume de Centaure Chronicle, il me l'avait dit dès le début, il voulait mettre un coup de collier à la fois sur les décors, sur le dynamisme des pages, parce que ça sera son dernier album régulier. C'est-à-dire que le prochain story arc, qui ne sera en un seul tome d'ailleurs, sera dessiné par Eric Van Elsland, qui est à l'heure actuelle notre coloriste. Et donc Marty savait que dans la série principale, ça serait son dernier album, et il voulait, entre guillemets, finir en beauté. Donc je pense que la conjonction des deux, le fait qu'il y avait beaucoup d'action et qu'il aime l'action, et le fait qu'il avait vraiment envie que ça soit, je dirais, son chef-d'œuvre sur Centaure Chronicle, ont fait que oui, tous ceux qui l'ont lu en pré-lecture nous ont dit que c'était vraiment un très bel album.
Ouais. Oui, il y a beaucoup de double pages, c'est très dynamique, il y a un gros travail de découpage, il y a des batailles homériques. J'y vois même, moi, un peu de manga, d'ailleurs. On est obligé, voir du Kaiju Ega, quand même, avec ces personnages géants qui se battent dans une ville.
Ouais. Alors, Marty a toujours eu une influence manga. C'est quelqu'un qui a à peu près mon âge, donc 50 ans, donc qui a grandi avec des choses qu'on voyait à la télé, Goldorak, les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z. Donc c'est toujours quelqu'un qui a été au carrefour de trois influences, franco-belge, comics, manga. Et en effet, il y a ce côté un peu manga qu'on voit de temps en temps sur les visages, notamment des personnages. Et puis, oui, il y a ce côté géant, mais ça vient de l'univers Centaure. D'ailleurs, tu parlais des rééditions. On a tenu à rééditer un épisode, je ne vais pas dire qui, mais en fait, où on voit qu'il y a des personnages qui peuvent devenir géants. Il y en a au moins trois dans l'univers Centaure qu'on voit devenir géants. Voilà. Et donc, et pour la petite anecdote, cet épisode dont je ne peux pas dire de quel personnage c'est qu'on a restauré où le personnage est géant, on a eu beaucoup de mal parce que moi je le voulais à tout prix. Et en fait, les scans d'épisodes qu'on avait récupérés sur Internet n'étaient pas en qualité suffisante. Donc on était super emmerdés avec Reed. En fait, le début était en qualité suffisante et la fin était en qualité insuffisante. C'était un mix de sources, le PDF qu'on a récupéré. Et du coup, on a eu du bol, et c'est pour moi un peu rigolo. J'ai acheté plusieurs Centaure comics d'origine, donc des années 40, pour avoir la possibilité de scanner les pages de manière extrêmement fine et surmonter cet obstacle technique. Donc voilà, j'ai dans ma collection maintenant 3 ou 4 Centaure Comics des années 40 originaux, dont celui avec cet épisode.
D'accord. Et ben justement, tu parles des épisodes des Centaure Comics. Il y a un épisode que je trouve particulièrement délirant, là, c'est celui avec d'Amazing Man, avec ses taupes géantes et tout ça, ouais. qui est assez chouette celui-là quand même, c'est un des meilleurs ouais. que vous ayez publié, je crois.
Écoute, oui, je suis d'accord, je trouve que les épisodes du Golden Age qu'on a publiés, hein, moi j'avais toujours fait attention qu'ils soient lisibles, qu'ils soient suffisamment, que les dessins soient suffisamment de qualité pour qu'un public actuel puisse les lire, certes en voyant ce côté nostalgique, mais en se disant que c'était très lisible. Et je suis d'accord avec toi, cet épisode d'Amazing Man est vraiment très intéressant. L'épisode de Sparkolery est pas inintéressant non plus. En plus, on a vraiment choisi un qui peut correspondre, entre guillemets, à l'ambiance science-fiction fantastique. L'épisode de Mini Midget est plutôt pas mal aussi. Et puis, l'épisode du personnage que je peux pas citer est vraiment très beau aussi. Donc, je trouve en effet que... Voilà, je ne dis pas que ce n'était pas prévu, parce qu'on n'avait pas prévu tous les épisodes restaurés qu'on allait faire depuis le début, mais ça tombe bien, en effet, je trouve que les épisodes restaurés sont beaux et s'insèrent encore mieux, je dirais, d'une certaine manière, dans les épisodes modernes qui sont très dynamiques. Ouais.
Et il y a aussi dans ce... Enfin, comme dans les précédents, mais dans ce volume, je trouve peut-être un peu plus une grande place accordée aux personnages féminins. Alors, est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'est important pour toi? Je pense à Zola Anderson, The Magician from Mars, Super Anne, qui sont des personnages qui ont une place très importante dans ce volume.
Enfin, dès le début, ça a été très important. Moi, je suis très sensible aux questions de diversité, de parité dans la vie de tous les jours et donc dans les comics aussi. Je suis pas un justice warrior ou un extrémiste, mais je considère que c'est normal. Voilà, ça doit même pas être quelque chose d'outrer, mais soyez quelque chose de normal. Et l'un des particularismes de l'univers Centaure, originel, c'est que les personnages féminins sont extrêmement forts. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a suffisamment pour que ça n'apparaisse pas pour, complètement dépeuplé. Mais ce qu'il y a, ils sont extrêmement forts. Et donc, c'était dès le début une des caractéristiques de l'univers que j'avais regardé, qui, moi, en plus, résonnait par rapport à mon expérience et à mes centres d'intérêt. Et donc, oui, j'ai développé scénaristiquement quand même ces personnages, et c'est pas fini, parce que sur les story arcs suivants, il y aura là aussi des personnages féminins très forts. On va continuer à en suivre certaines. Il y en aura des nouvelles. Mais c'est très intéressant d'avoir ces personnages. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le début, vraiment tout début du Golden Age, comme Centaure l'est, puisque Centaure inaugure quasiment le début du Golden Age, les personnages féminins étaient quand même assez forts. Ce n'est que au fur et à mesure qu'ils se sont adoucis, je dirais. L'un des exemples, c'est Lois Lane, le love interest de Superman, qui au début était un personnage extrêmement fort, quoi, hein, qui avait un côté têtu que les scénaristes ont gardé après, mais en l'affadissant. Et donc, du coup, c'est pas si logique que ça que ces personnages soient forts. On a une demi-douzaine de personnages féminins. Alors, certains diront c'est pas assez, hein, je parlais de parité. Nous, ce qu'on fait, à la fois dans la représentation des femmes et dans la représentation de la diversité, on ne force pas le trait. C'est-à-dire, je ne vais pas inventer un personnage africain, par exemple, que je vais mettre dans la société américaine des années 40 ou des débuts des années 50, comme si les gens considéraient qu'il était l'égal de tout le monde. Non, je ne réécris pas l'histoire. Par contre, on pousse sur certains thèmes et on le fait de manière harmonieuse avec l'histoire qui existait. Et c'est le cas des femmes, en effet.
Et tu ne réécris pas l'histoire, mais dans la BD, il y a aussi ce côté... Bon, là, on fête un triste anniversaire, hein, par rapport au 11 septembre. Et il y a ce côté, quand même, ville détruite, ville qui est très spectaculaire et puis qui, forcément, pour moi, m'évoque ça quand je lis la BD.
Oui, alors d'abord, je dis on réécrit pas l'histoire, mais c'est une uchronie, donc il y a des choses qui bougent, hein. Donc il y a des choses aussi qui bougent par rapport à ce qu'on dit sur la diversité, sur la parité, sur la présentation. Et puis oui, tu as raison, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était déjà, là aussi, dans les épisodes Centaure originels. Dans un épisode d'un personnage qui s'appelle Iron Skull, que l'on voit dans une case, dans le volume 4, c'est projeté dans le futur. Donc d'abord dans les années 50 et puis après très rapidement dans les années 70. Nous, du coup, on a réaligné un peu ça en disant c'est en 59. Quand ils disent dans les années 50, en fait, c'est la fin des années 50. Des épisodes qui parlent de la Deuxième Guerre, parce que il n'y avait pas encore eu la Deuxième Guerre mondiale quand ça a été publié, mais la Deuxième Guerre mondiale dont les combats se passent sur le sol américain. Donc nous, dans cet épisode, en fait, on localise d'une certaine manière ce futur proche Centaure à la fin des années 50, donc en 1959, avec une guerre mondiale, parce qu'elle est mondiale, dont une partie se passe sur le sol des États-Unis. Et tu as raison, là, ce ne sont pas des terroristes, hein, comme malheureusement au 11 septembre, mais en effet, New York est en guerre, enfin les États-Unis sont en guerre, New York est en guerre, New York est envahi, et New York est en partie détruit, ouais.
C'est assez spectaculaire. Bon, c'est peut-être parce que c'est paru en même temps que malheureusement.
Oui, bien sûr.
Du coup, ça m'est venu à l'esprit. Je passe du coq à l'âne. Il y a un petit plaisir supplémentaire aussi avec un inédit de Phantom of the Fair, hein, qui est proposé là pour les lecteurs, un petit inédit de 8 pages. Et ça, c'est grâce au succès parce que les volumes sont financés aussi via des campagnes de financement participatif. Et c'est quand même chouette parce que c'est 240%, je crois, que vous avez fait. C'est quand même chouette de voir cet engouement public pour Centaure Chronicles.
Oui, tout à fait. Merci à tous les contributeurs dont le cercle s'élargit de plus en plus, parce qu'il ne faut pas se leurrer au départ. Les contributeurs, c'était, tu sais, ce qu'ils appellent la love money, c'est-à-dire mes copains, ma famille, des gens que je savais intéressés parce que je les rencontrais en festival, parce qu'on lisait les mêmes fanzines, etc. Et puis ça s'est élargi au fur et à mesure, et maintenant on a à la fois un socle de lecteurs, mais surtout des gens qui découvrent. On a, pour chaque campagne de financement participatif, des packs où les gens achètent la globalité. Donc sur la campagne précédente, bien sûr, c'était les 3 premiers volumes. Sur cette campagne, ça a été les 4 volumes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté les 4 volumes, et voire même le 5e avec le petit crossover qu'on a fait entre Le Garde Républicain et Centaure Chronicle. Donc oui, c'est vraiment super. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous soutiennent sur les financements participatifs. Merci aussi à ceux qui ne nous soutiennent pas, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le système, mais qui après nous chassent dans les festivals pour être certains d'avoir leur copie et dédicacer souvent. On a dans beaucoup de festivals des gens qui viennent d'année en année pour avoir le nouveau volume et se le faire dédicacer. Donc ça, c'est super top. Et du coup, en effet, on avait prévu sur cette campagne beaucoup de bonus. On n'a pas été jusqu'au bout. On avait prévu jusqu'à 400%. Donc il y a des choses qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on fera dans le futur, parce qu'il y a des choses qui étaient prévues et déjà en partie faites. Et donc l'un des paliers importants, c'était en effet un épisode supplémentaire de 8 pages de Jean-Marie Minguez, du personnage fétiche de Jean-Marie, Phantom of the Fair, et qui s'insère à l'intérieur de la chronologie. Et puis c'était aussi quelque chose d'important, parce que Jean-Marie nous accompagne, m'accompagne depuis le début du projet, hein, puisque c'est notre cover artiste. Il vient en festival alors qu'il n'est, entre guillemets, que cover artiste. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, il est cover artiste, pourquoi est-ce qu'il vient en festival? Donc il vient en festival, il fait des dédicaces en festival, il donne du temps en festival, il donne du temps aussi de manière globale, et il fait énormément de dédicaces de Phantom of the Fair. Si un jour vous êtes en festival avec nous et que vous dites à Jean-Marie Minguez, fais le personnage que tu veux, vous aurez une dédicace du Phantom of the Fair, c'est certain. Et du coup, là, c'était l'occasion de le mettre dans l'album. C'est-à-dire que les gens voient le talent de Jean-Marie, voient la manière un petit peu différente dont il traite les personnages que Marty. Et c'est aussi ça qui est intéressant, et ça se rattache au monde des comics, hein, je dirais à la pratique américaine où c'est pas toujours le même dessinateur qui dessine les mêmes séries. Et puis voilà, donc c'était un clin d'œil, et puis c'était pour nous une manière de remercier les contributeurs. Et puis voilà, quoi, donc c'est sympa, 8 pages de plus, donc 8 pages d'épisodes, bien entendu, en fait, il faut des cahiers de 8 pages, donc il y aura 16 pages supplémentaires dans l'album, avec du rédactionnel, des croquis préparatoires, des choses comme ça.
Écoutez Culture Prohibée. Je me tourne vers mon ami Thomas. Thomas qui est venu avec une bande dessinée de Didier Cassaille dans sa besace.
Une bande dessinée de Didier Cassaille qui est publiée chez L'Harmattan. Il s'agit d'une réédition, en fait. Hein. L'Harmattan réédite donc L'Odyssée de mon goût, qui est adaptée par Didier Cassaille en collaboration avec Vincent Carrière. Et il s'agit de l'adaptation d'un roman paru en 1977 et qui est signé par Pierre-Samy Macfoy, qui était un écrivain et un homme politique centrafricain. Alors, L'Odyssée de mon goût raconte donc l'histoire de mon goût, qui est le chef d'un petit village isolé dans la brousse africaine. Et un jour, un blanc va se pointer. Et ils vont devenir amis. Un blanc qui est plutôt respectueux de leur façon de vivre, etc. Parce que ce village est très isolé, il est très loin du bord des côtes, etc. Et bon, jusqu'au jour où d'autres blancs vont venir qui vont être beaucoup moins sympas. En fait, L'Odyssée de mon goût parle bien sûr de la colonisation, mais pas uniquement. Il parle aussi de l'incorporation des troupes africaines durant la Première Guerre mondiale. Donc mon goût se retrouve incorporé, mais il va avoir un peu plus de chance que ses camarades qui, eux, iront au front. Cette fois, on ne suit pas mon goût sur le front de 14-18, mais vu qu'il a aidé les troupes françaises à incorporer ses camarades, lui, il va se retrouver à Paris, avec un petit boulot, garçon de salle dans un hôpital, etc. Il sera mieux traité que les autres, on va dire. Et il va découvrir la vie parisienne, qui est bien loin de la vie qu'il connaissait là-bas, dans son petit village d'Afrique. Donc c'est plutôt une BD... dans la tradition franco-belge, hein, Didier Cassay en France a aussi publié Tempête sur Bangui, qui est dans un style complètement différent, si je me souviens bien. Donc là, on est plutôt dans une tradition franco-belge. C'est une BD plutôt efficace, où il fait beaucoup dans l'ellipse, hein, dans l'elliptique. Et c'est une BD qui peut aussi être drôle, hein, dans les situations que Mongou rencontre, notamment quand il veut prendre le métro, etc. Ou les rencontres qu'il peut faire. Bon, on n'est pas dans le misérabilisme où il montre tout de suite tous les blancs racistes, méchants, etc. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est une très bonne BD à découvrir. Donc c'est un classique de la BD centrafricaine, adapté d'un roman classique de la littérature centrafricaine.
Je change d'univers, moi je vais aller du côté de nos amis d'Artus Film. Et oui, car Artus Film se lance dans l'édition de bande dessinée. Et là, il nous propose une bande dessinée réalisée par Namlok et Monsieur K, qui raconte l'histoire de Martin et de son quotidien. Voilà. Et puis Martin, divorcé, qui est papa d'une jeune fille de 16 ans, qui s'appelle Hélène. Et puis Martin qui rencontre Alice et qui tombe amoureux de cette femme qui visiblement a un secret. Et puis Martin qui en même temps poussé par cette femme à concrétiser ses rêves et qui va pouvoir enfin réaliser un giallo. C'était le rêve de sa vie. Voilà, un vrai film, réaliser un vrai film pour le cinéma parce que jusqu'ici il vivotait de ses talents. Et ben cette Alice, elle a un secret. Et cette BD qui démarre comme une chronique douce amère du quotidien d'un célibataire, d'un divorcé un peu renfermé sur lui-même et tout ça, va se transformer en histoire horrifique et va nous réserver quand même pas mal de surprises, dont un revirement à mi-parcours. Mais de tout ça, je vous propose d'en parler et d'en parler avec ni plus ni moins que Namlok et Monsieur K, les auteurs de cette BD. Donc Namlok et Monsieur K, tout de suite au micro de Culture Prohibée. Avant de parler de l'alter ego, j'avais envie, Namlok et Monsieur K, que vous vous présentiez. Quel a été votre parcours avant cette bande dessinée ?
Nam, je t'en prie. J'ai commencé par un collectif de bande dessinée abstraite qui s'appelait Nawak. Ensuite, j'ai intégré la team de Trashem qui correspondait aussi avec le logo Tozine, là où j'ai rencontré Monsieur K. Et on a sorti plusieurs albums, notamment Alpha Omega chez Yill, Just Cool and the Strange Cult of Madness en indé, et là, dernièrement, l'Alter Ego. À toi, Monsieur K.
Ok, bah alors, moi j'ai commencé par faire une école de cinéma à Paris. Je suis parti sur le cinéma, donc j'ai fait des courts-métrages, un long-métrage même à Paris, à Montpellier, Ouch. Et puis, changement de parcours au bout d'un moment, parce que ça coûte cher de faire du cinéma et surtout en indépendant. Du coup, à un moment, j'ai décroché un peu toutes mes cordes pour vraiment me dire je vais faire que du dessin, tranquillement, chez moi. Et donc voilà, donc depuis 2014, voilà, je fais exclusivement de la BD, du dessin de presse aussi, notamment en local. Moi, je suis à Béziers avec Robert Ménard, dont je dessine dans la pieuvre du midi. Et puis donc, dizaines d'albums, pas mal en auto-édition, et puis édité, il y a Maria veut un enfant, c'est ma dernière BD en solo, aux éditions Tapage. Et l'alter ego donc qui sort chez Artus Film.
Bah justement, oui, Artus Film qui n'est pas un éditeur qui a sorti des bouquins, hein, mais sur le cinéma, mais qui n'est pas un éditeur spécialisé dans la BD. C'est même sa première BD à Artus Film. C'est leur première BD qu'ils éditent. Comment vous êtes-vous retrouvé ? Comment la connexion s'est faite avec Artus Film ?
Alors, la connexion elle s'est faite parce que je connais ces gars depuis très longtemps. On a même fait du cinéma ensemble. On est allé à Gérardmer, au Festival de Cannes. On a écumé pas mal le monde du cinéma ensemble. Donc, on se connaît vraiment de là. Et quand, avec Tam, on a commencé à intégrer le cinéma dans la... Parce que l'idée toute première, il n'y avait pas du tout de cinéma intégré dans cette idée. C'était vraiment l'histoire de la relation entre Alice et Martin. Et puis, bon, bah, comme on est des passionnés de cinéma et puis de cinéma bis et tout ça, tous les deux, et de cinéma un peu indépendant et foutraque ou déjanté, du coup, ça s'est vite imposé et on a pu mélanger notre amour de la BD, notre amour du cinéma sur ce projet.
C'est là qu'on s'est mis à aimer le projet, justement, qu'on a intégré le cinéma vraiment. Parce qu'au début, on tape un délire.
Vachement.
On a mis beaucoup de. Je pense qu'on a mis beaucoup de nous dans cette lettre d'amour au cinéma.
Ouais, clairement. Et donc voilà, bah, du coup, après, ça m'a paru, moi, naturel de bosser avec Kevin et Thierry de d'Artus Film parce que ça rentrait complètement dans cet univers. En plus, avec ce giallo qui venait s'immiscer, ça m'a paru une évidence. Donc on leur a proposé. Donc effectivement, ils n'avaient fait que des livres sur le cinéma. Mais ils étaient bien tentés par cette expérience de lancer une première BD. Et ben on verra du coup si ça se reproduit, si le succès est au rendez-vous, c'est fort possible qu'on continue.
Justement, Namlok et Monsieur K, qui a fait quoi sur cette BD en vérité? Comment vous vous êtes partagé le travail?
Donc j'ai proposé le projet à Monsieur K et je voulais rétablir une vérité parce que souvent on nous présente en tant que Monsieur K au dessin et Namlok au scénario, mais en fait c'est faux. On a fait tous les deux le scénario, on l'a développé, vraiment ensemble.
Enfin, après moi ça me dérange pas que c'est vrai que souvent on présente ce qui est assez logique comme il y a Namlok et Monsieur K et que Monsieur K est au dessin, donc en général c'est comme Goscinny et Uderzo sans comparaison évidemment. Donc les gens ont tendance à penser que du coup c'est lui qui a fait tout le scénario, mais enfin ça me dérange pas spécifiquement, mais c'est vrai qu'on l'a travaillé ensemble au fur et à mesure. Même à la base il m'avait lancé d'ailleurs une idée en disant débrouille-toi avec ça. Et puis, dès les premières pages, ça l'a piqué. Il a dit « Ah, mais attends, il y a peut-être un truc. » Puis j'ai commencé à mettre des affiches de cinéma sur les murs. C'est comme ça que le cinéma, sur les murs de ce personnage, comme ça que le cinéma est rentré dans le scénario. Et donc, du coup, bah, dès la deuxième page, je crois, d'ailleurs, on a commencé à chaque dimanche par Internet, sur Messenger, à discuter de longues heures, repoussant le dîner de repas de Namlok le dimanche, pour à chaque fois préparer la semaine qui venait et puis tirer les grandes lignes de ce qui allait suivre.
Bah justement, vous en parliez un peu à l'instant. Cette BD, elle a été faite sous contrainte, enfin des bonnes contraintes qui font que ça vous a amené à être créatif. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu, parce que c'est pas une BD qui a été faite de manière classique?
Monsieur K faire parce que c'est son idée en fait.
Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis arrivé. Oui, c'est ça. En fait, quand il m'a proposé une idée, c'est un album qui a surgi nulle part. Il m'a proposé une idée qu'il avait de Switch, qui est donc le milieu de l'album, et de
faire. Qui à la base, pardon. Oui, qui à la base, le Switch, c'était la fin de l'album en fait.
Oui, d'ailleurs.
En théorie.
Convaincu de continuer. Oui. Et du coup, moi, j'avais cette idée de poster une case par jour sur Internet pour voir si les gens suivaient. Et donc, il y a quelques lecteurs, je rencontre régulièrement, qui me disent « Ah ouais, moi, j'avais tout suivi ou raté des fois quelques cases. » Mais enfin, c'était l'idée. Et du coup, c'est imposé à moi cette idée. Ben, disons que dans Maria, déjà, l'histoire, elle se passe de strip en strip. C'est-à-dire que j'avance une histoire continue, mais chaque séquence n'est qu'un strip. Et du coup, j'ai pu pousser plus loin l'idée de l'ellipse en faisant que chaque scène n'est qu'une case, mais tout en ayant évidemment une fluidité de lecture de case en case. C'est donc pas un journal de bord comme les gens pensent des fois. C'est vraiment une continuité de narration. Mais chaque jour doit correspondre à une case et il faut avancer comme ça. Et c'était un pari quand on a commencé. On savait pas si on allait arriver à avoir les outils et les petites trouvailles pour arriver à tenir les 40 pages comme ça, parce que c'est nouveau effectivement, comme à ma connaissance, ça n'a jamais été fait une narration comme ça.
Au départ, cette BD, elle fait alors presque penser à du Dupuis Berbérian, il y a un côté autobio, tout ça, puis elle bascule dans l'horreur, voilà. Et alors, vous parliez aussi des affiches, avec les affiches qui annoncent un peu la couleur, mais si on ne fait pas gaffe, on ne s'en rend pas compte. C'est petit à petit qu'on bascule dans l'horreur. Pourquoi ce choix? Pourquoi avez-vous décidé de faire basculer cette BD dans l'horreur, tout simplement, quoi, voilà, dans le genre horrifique?
Mais surprendre le lecteur, tout simplement, en fait. Mais vraiment, c'était ça le concept, en fait, de faire des tranches de vie, en fait, de ces deux personnages et finir sur un... un final horreur, en fait. Tout simplement, quoi.
Et en cours, on s'est dit, ça va faire un petit peu court. Du coup, moi, j'ai dit à Nam, tiens, mais si on prolongeait, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a basculé dans l'horreur, allons-y et continuons. Et puis, alors, en plus, comme on a eu cette idée de tournage de Diallo,
on voulait faire comme du film d'horreur, mais avec un développement psychologique des persos, pour pas que ça soit juste de la boucherie pure, gratos, quoi. Enfin, des morceaux de barba qu'on, au final, on s'en fout d'eux, quoi. Il fallait vraiment que ça touche le lecteur.
Oui, c'est vrai qu'on était d'accord sur ça. C'est que beaucoup de films d'horreur ne fonctionnent pas parce qu'ils se focalisent sur les effets, sur le gore, sur les assassinats divers et variés, et oublient en fait de suffisamment développer les persos.
Ouais.
Et donc nous, c'est tout le contraire. En fait, on focalise sur les personnages, et donc quand l'horreur arrive, du coup, c'est beaucoup plus prégnant parce que les lecteurs ont pu s'identifier tout au long de la BD.
Enfin, le but, c'était ça. Après, nous, on ne sait pas si c'est réussi. On ne peut pas être objectif à ce niveau-là, quoi.
Oui, c'est ce qu'on voulait. Mais enfin, les retours ont l'air de confirmer que ça fonctionne, mais effectivement, c'est le but.
Bah, ça fonctionne. Sinon, on n'en parlerait pas. C'est que ça fonctionne. Après, c'est pas... Alors, on parle depuis tout à l'heure du fait qu'effectivement, il y a des références au cinéma de genre, tout ça, mais je trouve que vous évitez le piège, en fait. C'est pas une BD, en fin de compte, il y a quelques affiches qui servent la narration, mais c'est pas une BD forcément très référentielle, y compris par rapport à l'univers du giallo, tout ça. Vous êtes plus, en fin de compte, dans un monde à la Cronenberg première formule, on pense à Frisson, on pense évidemment à Eden de Jack Sholder, mais enfin, moi, je pense plus à Cronenberg. Et quelles sont vos influences, plus vastes, que ce soit en BD, en littérature, en cinéma? Qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce qui fait qu'on en arrive justement à l'alter ego?
Cronenberg, clairement, était une référence là pour nous. Là, on peut faire peut-être un peu en ping-pong, Nam. Juste, je voudrais dire, oui, c'est ça. En fait, on voulait pas que ça soit quelque chose où on met toutes nos références pour se faire plaisir, enfin, un truc un peu comme ça.
Ouais, parce qu'en fait, chaque fois que ça serve. Je sais pas si vous connaissez la BD Midi Minuit, je suppose que oui.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Voilà, et donc en fait, on voulait pas refaire Midi Minuit, tout simplement. Quoi.
Aussi, ouais, c'est vrai. Qui était vraiment sur le giallo. Ouais.
Et qui est une très bonne, c'est une très bonne BD. Hein. Je dis pas ça contre la BD. Moi, j'aime beaucoup cette BD, mais justement, il fallait pas refaire la même chose, quoi.
Alors, on aime beaucoup Midi Minuit. On a reçu Doug Edline dans l'émission d'ailleurs au moment de la sortie de la BD. Mais c'est effectivement, on n'est pas dans le même genre de BD. C'est différent. Vous êtes dans autre chose.
Ouais.
Vous êtes dans l'intimiste déjà. Vous êtes dans quelque chose de très différent. D'ailleurs, y compris dans les choix picturaux. Je pense au trait qui est très BD à la française, si j'ose m'exprimer ainsi, qui est loin du comics et de la BD horrifique classique, même des EC Comics et tout ça, tel qu'on caractérise généralement la BD horrifique, quoi.
Exactement, et justement, en fait, c'est un peu aussi pour ça que j'ai proposé ça à Monsieur K, parce qu'en fait, c'est toujours pour servir la surprise au lecteur, en fait. Vraiment, il fallait pas qu'il s'y attende du tout, quoi.
Bah, c'est ça, moi je suis plutôt dans l'humour, alors l'humour noir en général. Mais c'est vrai que je suis dans l'humour, dans des choses assez légères. Je ne fais pas du tout de comics ou de choses vraiment horrifiques ou très dures ou très violentes. Même si j'ai un goût partagé avec Nam pour ce genre de films, notamment, et de BD. BD, je trouve que c'est plus rare, des trucs vraiment intéressants de ce point de vue. Midi Minuit était vraiment chouette. Mais donc voilà. Mais peut-être les références, du coup, on n'a pas trop répondu, Nam. Qu'est-ce qu'on avait? On en citait plein en permanence.
En BD, par exemple?
Oui, BD ou film qui nous servait pour la BD. C'était un peu la question au départ.
En horreur, moi, je sais pas, dernièrement, j'ai lu Nameless de Grant Morrison, qui m'a mis une grosse baffe dans la gueule.
La BD s'articule autour de... Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais je trouve que c'est vraiment un choix fort dans la BD. S'articule autour de deux personnages principaux. Il y a Martin, et puis il y a sa fille Hélène. Et vous faites un choix de la bichromie. Alors, est-ce que ça a été clair tout de suite? Est-ce que ça s'est imposé dans la construction de la BD, comment vous expliquez-vous ce choix que vous avez fait?
De la bichromie?
Ouais, de la bichromie, et puis de basculer aussi au milieu du récit d'un protagoniste à un autre, quoi.
Je crois que c'est c'était mon idée de basculer avec quelques... Bon. C'est vrai ? Mais parce qu'il me semble que tu avais quelques réticences sur le fait que si les gens, après, feuilletaient le bouquin, ils allaient voir,
C'était au niveau de la couleur, en fait, que j'avais des réticences. Attention, qu'ils feuillettent le bouquin, qu'ils se disent « Waouh, il y a un truc, là !» et qu'ils checkent le spoiler, en fait, tu vois, couleurs. C'était ça. Mais il me semble que c'était mon idée de faire d'Hélène le protagoniste principal de la deuxième partie.
Après, c'était sur la bichromie. Oui, ça, je ne sais pas pour Hélène. J'avoue que sur le scénario,
c'était un peu comme ça que je t'avais vendu la deuxième partie quand tu me l'as proposé. Je t'avais dit OK, mais il faut le faire autrement. Et du coup, on est parti un peu. Sur cette articulation un peu basée sur Psychose, où au début du film, tu suis à Marion Crane, et genre au bout d'une demi-heure, tu passes sur un autre protagoniste.
Ouais, c'est ça. Là, on avait.
C'était intéressant, en fait. Ouais.
Ouais, c'est ça. Là, on avait la référence de Hitchcock là-dessus. Et sinon, je répondais plus sur la bichromie, du coup, sur l'idée de la bichromie, de changer de couleur, parce que c'était ça la question. Et le monochrome, il est parti un peu pour une facilité, c'est-à-dire même le trait. Un peu enlevé comme ça, c'est-à-dire d'un dessin assez rapide, qui donne une impression plus que quelque chose de fouillis. Donc c'était l'idée de pouvoir aller vite pour publier chaque. Donc après, je l'ai quand même retravaillé pour le assez longuement pour le livre, parce que selon les jours, c'était plus ou moins plus ou moins réussi. Mais du coup, et le monochrome, ça fait un moment moi que je me bats avec la couleur parce que j'aime le noir et blanc. Et donc, tout le monde dit la couleur, ça attire plus. Donc, par exemple, pour mariage, j'ai mis de la couleur. C'est un autre métier, je dirais, que dessinateur et auteur.
Je vais conclure sur une question assez classique, mais on a compris, il n'y aura pas de suite à l'alter ego. Ouais. Mais quels sont vos projets ? Est-ce que vous envisagez de refaire quelque chose ensemble ? Ou est-ce que chacun séparément, là, vous avez des choses en préparation qui vont bientôt arriver ?
Tu veux commencer, Nam ?
Parce que t'as 10 000 projets, donc moi je bosse actuellement sur un second album musical, un mini-album, et j'ai aussi un scénario qui traîne dans un tiroir, et je me tâte à le réaliser en fait, ou trouver le bon dessinateur qui va avec. Et voilà quoi. À toi, monsieur.
Alors moi j'ai plusieurs trucs. J'ai toujours au moins 10 projets en parallèle en fait qui avancent. Mais j'ai les chroniques anachroniques qui est un truc auquel je tiens assez dans un style plus à la Tintin, à la franco-belge. Donc c'est une histoire de voyage dans le temps dans les différents grands mythes. Donc là on est sur le quatrième. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et puis j'ai un dans le même style que Maria, là, chez Tapage, je prépare. Alors, là, c'est des strips, mais indépendants. C'est Le monde est un joyeux cimetière. Donc, c'est des strips où chaque strip, c'est sur la mort, en fait, mais une façon un peu de s'amuser. Mais c'est humour très noir, du coup. Sans comparaison non plus, un peu comme les idées noires de Franquin, mais dans mon style à moi, quoi. Et avec Nam, moi, je suis partant. Alors, si. La BD devient culte, ça nous obligeait à en faire un deuxième, mais je pense que tôt ou tard, enfin, moi j'ai pris un tel plaisir à travailler avec Nam, on est tellement bien connectés, des fois on s'accroche sur des idées, mais c'est ça qui est bien, mais du coup je trouve qu'on s'est tellement bien associés, ça a tellement bien marché que moi je pense sûrement qu'on refera quelque chose. Après il a des idées, j'en ai quelques-unes qui traînent aussi, là c'est, on fait avancer ce qu'on a à faire, mais bon, on se retrouvera mon âme.
Ouais, mais moi aussi ça m'a plu parce qu'en fait quand t'as l'habitude de bosser tout seul, déjà t'as pas le point de vue d'un autre pour dire ah ouais mais attends ça déconne et tout, et il y avait cette technique de ping-pong qui faisait que tu lançais une idée et puis ça me faisait rebondir sur une autre, etc. Et ouais, du coup c'est vachement intéressant au niveau du développement, donc ouais moi ça me branche. Mais le truc c'est de trouver un bon concept, enfin une bonne histoire à raconter, quoi. Da 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 da
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur theextasyoffilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit de Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Bye.